Les indices arméniens, c'est ainsi que chaque hématocient nomme les signaux qu'elle a répertoriés, traqués à travers quelques œuvres de trois artistes majeurs de la Renaissance, Léonard de Vinci, Dürer et Michel-Ange. Une traque passionnante au pays des signes et des symboles. Chaque hématocient articule des pans de savoir d'une manière nouvelle et nous déroule un tapis jusqu'en Arménie, là où une panthère parfumée nous invite à la suivre. Chaque hématocient est philosophe, elle enseigne à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et son livre s'appelle « Des admirables secrets de l'Ararat, Vinci, Dürer, Michel-Ange, sur les traces d'Er et Noé, aux éditions La Part de l'œil ». C'est vos propres indices arméniens, vous dédiez ce livre à vos grands-parents. Est-ce que c'est un petit peu aussi un roman familial que vous faites en... par cette recherche ?
Peut-être. Alors, vous voyez, le titre, c'est « Des admirables secrets de l'Ararat ». Alors,
chaque
je ne vais pas m'étendre sur des explications freudiennes, mais bien sûr, il y a les secrets de famille. Et bien entendu, je dois beaucoup à mes grands-parents, puisqu'ils m'ont transmis la mémoire de ce qu'est être arménienne, ce qui m'a permis justement de voir toutes ces œuvres autrement, parce que si je n'avais pas ça, ça ne m'aurait pas frappé que Dürer ou Michel-Ange ou Vinci se portraiture en Arménie. Et bien entendu, c'est aussi toutes les souffrances, puisque mes grands-parents sont des rescapés du génocide des Arméniens perpétré par le gouvernement turc de 1915. Et c'est aussi toute cette mémoire, et quand je dis mes grands-parents, c'est aussi toute la génération de mes grands-parents qui m'a beaucoup marquée et qui font un hommage aussi pour eux.
Donné à Nuremberg le jour de la Saint-Augustin 1507, le second dimanche de Carême en l'an 1508. Fait à Nuremberg le jour de la Saint-Barthélemy en l'an 1508. Donné à Nuremberg le samedi après la Toussaint. Qu'est-ce qui était l'aiguillon pour vous ? Est-ce qu'il y a eu une première trace qui vous a dit « je vais chercher dans cette direction-là » ?
Il y a eu plusieurs traces. Je dirais la première trace, au fond, elle est due à Carpaccio, pour ce qui concerne Dürer. J'avais remarqué dans l'Accademia de Venise le martyr des 10 000 sur le mont Ararat. Et je trouvais ça intriguant. Et donc, à partir de là, j'ai cherché ce qu'il y avait, ce qu'était le martyr des 10 000 sur le mont Ararat. Il n'y a pas grand-chose, d'ailleurs. Et à partir de là, je me suis interrogée aussi sur le tableau de Dürer, que par ailleurs, bien sûr, je connaissais, mais que je ne connaissais pas comme étant le martyr des 10 000 sur le mont Ararat, puisqu'on ne l'intitule que le martyr des 10 000. Et donc, je me suis dit, forcément, c'est aussi sur le mont Ararat. Et à partir de là... En connaissant aussi le fait qu'il y avait les lettres de Léonard de Vinci où il se disait ambassadeur en Arménie, je me suis demandé, au fond, ce qui pouvait lier ces peintres et pourquoi ils faisaient leur autoportrait en Arménie. Et surtout aussi, pourquoi personne n'avait rien dit concernant le tableau de Dürer, cet autoportrait sur le mont Ararat, qu'on appelle le martyr des 10 000, mais sans jamais préciser que c'est sur le mont Ararat. Donc c'est un petit peu au hasard des promenades dans les musées, que tout d'un coup il y a un indice, et puis qu'on fait une recherche un petit peu comme un détective.
Vous parlez donc de cet estompement de la référence arménienne propre. Alors comment l'expliquer cet estompement ? Il s'est fait progressivement, parce que quand même l'église arménienne est une des premières églises dans l'histoire de la chrétienté, après l'église copte et syrienne, donc c'est tout au début de la chrétienté. D'où vient cet estompement ?
Je ne suis pas historienne, donc c'est un peu difficile pour moi de donner cela. J'essaye d'analyser ça plutôt sur le plan philosophique, qui est mon domaine. Et
alors là, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut aussi en dire des choses.
On peut en dire des choses, oui. La question de l'estompement, je la remarque particulièrement au XXe siècle, puisque par exemple, pour le martyr des 10 000 sur le mont Ararat, j'ai montré aussi avec toute l'iconographie combien cette légende est présente à travers les siècles, particulièrement à la Renaissance, mais qu'elle continue jusqu'au XIXe siècle, par exemple, puisque Gustave Moreau va reprendre le tableau de Carpaccio, non seulement pour faire des esquisses d'après le martyr des 10 000 sur le mont Ararat, mais aussi, par exemple, le tableau Les Chimères de Gustave Moreau reprend le schéma du martyr des 10 000 sur le mont Ararat. Donc, pour des peintres du 19e, ça reste qui ont un degré de spiritualité, hein, comme c'est le cas de Gustave Moreau, bien sûr. Alors, pour ces peintres-là, ça reste une référence importante. Et je crois aussi que s'il y a un estompement, c'est dû à la coupure qu'on veut imposer entre l'Orient et l'Occident. Et je crois que c'est ça qui est dramatique, c'est d'imposer cette coupure à travers tout un pan de la culture, très propre peut-être au XXe siècle, un oubli de l'Orient, un oubli des relations entre l'Orient et l'Occident. Et ce que j'essaye aussi de montrer dans ce livre, c'est que l'Orient et l'Occident sont liés et qu'il y a des ponts et des passages, et c'est cela que j'essaye d'examiner.
Alors, ces 10 000 martyrs que vous évoquez, il faudrait peut-être y revenir, puisque effectivement, s'ils étaient connus jusqu'au 19e siècle, ils ne nous sont plus très connus, ces 10 000 martyrs, qui étaient des soldats au départ. Racontez-nous cette histoire.
Alors, ce que je sais de la légende, c'est ce que j'ai pu trouver, c'est pas grand-chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est la réalité de la légende. Donc, je ne sais pas si cette légende est basée sur un fait historique. Je ne suis pas historienne, donc je ne suis pas allée chercher des traces historiques. Alors, la présence de la légende est importante à la Renaissance. Il s'agit d'une légende qui ressortirait en tant que légende au IXe siècle et qui nous renvoie à l'Empire romain, sous le règne d'Adrien, donc au IIe siècle. Et là, Adrien ayant profané le mont Calvaire avec les idoles romaines, etc., il y a une punition qui se fait et l'Empire romain est attaqué sur son flanc arménien, son flanc oriental. Et donc, il faut défendre l'Empire. Une légion romaine de 9000 soldats, qui sont des soldats arméniens, mais pour Rome, quoi, donc, qui font partie de l'Empire romain, essayent de défendre le territoire, mais ils sont complètement découragés parce qu'ils sont très peu nombreux. Et un ange, voyant leur bravoure, leur envoie un ange. Ils ont de nouveau le courage et l'ange les éclaire vers le chemin, évidemment, de Dieu. Et avec ce courage, ils arrivent à vaincre les ennemis. Entre-temps, les renforts romains arrivent. Ils sont très fâchés de voir que les soldats ont réussi tout seuls à 9000 à mettre toute l'armée perse en déroute, qu'en plus, ils ont abandonné le culte des dieux romains. Donc, ils essayent de les faire revenir à la foi païenne, enfin, à la religion païenne, par contre. Et les autres ne voulant pas y revenir, ils les attaquent. Mais miracle se produit, les lances reviennent sur les agresseurs, les pierres reviennent sur les agresseurs. Donc, il y en a 1000 qui sont étonnés par ce miracle et qui se convertissent eux aussi. Donc, ça nous fait 10 000 martyrs. Et l'ange revient, il les mène sur le mont Ararat. Et là, il les illumine de tous les mystères et de toute la vérité. Et donc, c'est le fameux martyr des 10 000. Alors là donc, les Romains, la légion romaine les crucifie, les fait périr par le martyr. Et alors, ces martyrs sont invoqués, et c'est ce qui est intéressant pour le tableau, justement, aussi de Dürer et sans doute pour beaucoup d'autres, mais de Dürer particulièrement, puisqu'il s'agit d'un autoportrait, c'est que ce sont les 10 000 martyrs qu'on invoque au moment du trépas, c'est-à-dire dans le passage, le moment où l'âme va quitter le corps, hein, donc le passage à de l'au-delà, le basculement de la vie dans la mort. Et aussi, on les invoque en cas de maladie grave, ce qui est intéressant pour Dürer, puisqu'il est complètement obsédé par les maladies. On va, par exemple, trouver chez Carpaccio le martyr des 10 000 lié à un vœu fait aux 10 000 parce que, justement, le commanditaire de l'œuvre a été sauvé de la peste. Donc, il y a un rapport aussi à la maladie, à l'épidémie, aux choses graves, à la mort. Mais particulièrement, ce sont les 10 000 qu'on invoque au moment du trépas. Ils sont menés par leur chef, Acas, Acas, dont l'étymologie renvoie aussi aux ronces, à la ronce, donc c'est ce qui fait aussi que le martyr des 10 000 est toujours montré avec des épines, des ronces, ils sont embrochés dans des arbres épineux.
Oui, c'est très proche de la représentation christique aussi.
Oui, oui, aussi, puisqu'ils sont crucifiés sur le mont Ararat. Mais particulièrement les ronces, les épines, ça sont très... Dans pratiquement tous les tableaux que j'ai pu repérer, on voit ce phénomène des ronces et des épines.
Iconographie très nombreuse donc sur ces 10 000 martyrs sur le mont Ararat. Ce n'est pas seulement les représentations sur lesquelles vous vous attardez, notamment celle de Dürer, c'était quelque chose qui était vraiment connu, répandu à l'époque.
Oui, ça aussi c'est assez étonnant. À partir du moment où je me suis intéressée à ce sujet, j'ai trouvé des martyrs des 10 000 à peu près partout. Il y en a dont je connais la trace, mais je n'ai pas pu avoir la photographie, l'illustration, je n'ai pas pu aller sur place. Je suis sûre qu'il doit y en avoir en Pologne, mais j'y ai pas eu accès. Je sais qu'il y en a en Suisse, je ne l'ai pas eu. Il y en a un à Bergame, je ne l'ai pas vu non plus. Donc il y en a que j'ai raté, mais j'en ai beaucoup, comme vous avez pu le voir. Et ce qui est magnifique, c'est que donc, ça va de la Sicile au fin fond de la Bretagne, par exemple dans le Finistère, à Crozon, il y a un retable très rustique, très, très beau. Comme je vous l'ai dit, en Sicile, en Roumanie, il y en a énormément, en Transylvanie, en Allemagne, enfin, il y en a vraiment partout. Et ce qui était gai aussi en faisant ces recherches, c'est de faire au fond comme un réseau d'amis, parce que tout de suite, beaucoup de gens se sont intéressés, aussi bien dans des offices du tourisme que dans d'autres choses, où j'envoyais des mails pour savoir si cette œuvre était encore là, s'il y avait moyen d'y aller, etc. Et tout le monde a été très gentil, m'a envoyé des documents. Enfin, c'était vraiment très, très agréable, très touchant de voir la disponibilité des gens, la gentillesse, l'intérêt aussi, parce que tout à coup, ils découvraient qu'eux-mêmes, dans leur village, j'avais quelque chose qui pouvait être intéressant et donc il favorisait cela au maximum. Et ça, c'était très gai aussi dans la recherche.
Est-ce que c'est une légende qui est présente aussi dans la littérature ?
Personnellement, je n'ai pas trouvé, mais je ne peux pas dire que j'ai beaucoup cherché non plus. Donc, à part une occurrence dans Le rêve d'Émile Zola qui se réfère à la légende dorée, donc c'est dans la légende dorée surtout.
Mais Jacques de Voragine.
De Jacques de Voragine, pas dans l'édition officielle, par exemple, qu'on trouve aujourd'hui dans la Pléiade, par exemple.
Donc, c'est aussi un estompement.
Je ne sais pas si c'est un estompement ou plutôt l'éditeur qui a considéré, qui n'a voulu prendre que les textes authentiques, parce qu'on sait que dans la légende de Voragine, il y a eu aussi des rajouts selon les siècles. Et donc cet épisode-là n'apparaît pas.
Alors on va revenir sur ces trois grands peintres majeurs. On a cité Dürer, mais il y a aussi Vinci, Michel-Ange. C'est pas rien quand même, hein. C'est les trois plus grands peut-être de la Renaissance. Et il y a une insistance. Alors comment vous est-elle apparue cette insistance sur justement une sorte de communauté, de fraternité avec une communauté arménienne qui serait rejetée ?
Je pense qu'il y a peut-être plutôt une recherche philosophique qui est derrière cet ensemble, cette inscription des trois peintres, donc Vinci, Dürer, Michel-Ange, dans une terre arménienne. C'est une terre connotée, très fortement, bien sûr, avec le déluge, puisque l'Arche de Noé, après le déluge, reste sur les montagnes d'Arménie. Pas seulement l'Ararat, hein, selon les textes, c'est les terres arméniennes. Je me suis demandé pourquoi ces trois peintres faisaient leur autoportrait. C'est ce qui m'intéressait parce qu'évidemment, on peut trouver beaucoup de représentations du déluge, de l'arche de Noé, etc. C'est interminable. Donc, il faut quand même un peu cibler. Ce qui m'intéressait, c'était la question de l'autoportrait. Pourquoi se situer là ? Et il m'est apparu que c'est quand même ces trois peintres sont complètement obsédés par... Ces trois artistes plutôt, parce qu'ils ne sont pas tous peintres au départ. Ces trois artistes sont obsédés par l'idée de la résurrection, par l'idée du déluge. Hein, pensons au déluge peint par Michel-Ange, tous les déluges dessinés par Léonard de Vinci, et donc par la résurrection aussi. Puisque, évidemment, après le déluge, c'est la Renaissance. Donc, Renaissance de l'humanité. Alors, pensons, bien sûr, au jugement dernier aussi de Michel-Ange. Et c'est là, dans ce jugement dernier, qu'il fait son autoportrait sur la peau de Saint-Barthélemy, qui est l'apôtre des Arméniens, écorché en Arménie. Donc, pourquoi ? Pourquoi cela ? Alors, il m'est apparu, et ce que tout le monde sait, bien sûr, c'est que cette époque est marquée par le néoplatonisme. Or, chez Platon, la question de la résurrection, de la réincarnation des âmes, est présente dans le mythe d'Er l'Arménien. Et Socrate raconte ce qu'il sait de ce que lui a raconté Er l'Arménien, c'est-à-dire que les âmes choisissent, après le jugement, doivent choisir une nouvelle vie, et elles sont réincarnées. Et donc c'est bien Er l'Arménien qui raconte cette histoire, qui raconte ce qui n'est pas une fable pour Socrate, mais qui peut être une fable pour les sophistes. Et ça, Socrate, enfin Platon dans le texte indique bien. Vous, vous croyez que ce sont des fables, mais moi je vous dis que c'est une histoire vraie, etc. Donc bon, c'est la vérité du discours d'Er que transmet Socrate. Et il dit bien, Er, fils d'Arménios, originaire de Pamphylie, il est arménien. Alors il me semble que pour ces trois peintres, s'inscrire dans la terre d'Arménie, c'est signaler aussi qu'ils font la jointure, la jonction, l'alliance entre Platon et le christianisme. Et ça, je crois que c'est essentiel. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important de ces trois autoportraits, c'est de parvenir à poser la problématique, à se la poser pour eux-mêmes, la problématique de la résurrection, et de pouvoir faire sur cette question qui est religieuse, dans un moment où ils sont néo-platoniciens, de faire la jonction entre Platon et le christianisme.
Vous avez évoqué Er, il faudrait peut-être aussi resituer ce qu'est Er. Est-ce que c'était un héros lui aussi? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'il a une existence réelle? Enfin, qui était Er l'Arménien? Er écrit E-R.
E-R. Er l'Arménien apparaît donc chez Platon dans la République, au livre 10 de la République. C'est un des mythes les plus importants de Platon. Donc il y a dans la République, il y a le mythe de la caverne avec la question des simulacres, puisque nous sommes donc dans un monde des simulacres. À ce monde des simulacres, qui est le monde de la matière, s'oppose le monde réel, qui est celui autre que la matière, vers lequel nous allons nécessairement, parce que nous avons un organe qui nous mène vers cette autre dimension, mais il faut évidemment que cet organe puisse être éveillé. C'est pas tant la question du monde des idées, parce que quand on parle du monde des idées, on a toujours l'impression de quelque chose de très figé. Or, ce qui est important, et c'est ce qui m'est apparu en tout cas à la lecture de Platon, c'est l'importance de la vie, c'est le vivant. Et c'est vers ce monde-là, cette vie de lumière, la lumière au sortir de la caverne, c'est la vie. Et donc c'est là que nous mène Socrate avec le fameux « connais-toi toi-même », c'est bien dans cette intériorisation arriver à voir la vie elle-même. Et donc la vie, elle est en dehors des corps, elle ne se résume pas bien sûr au corps physique, loin de là, et à la matérialité. Et donc dans le 10e livre de la République, pour nous parler de l'immortalité de l'âme, qui est la grande question de Platon évidemment, la question platonicienne par excellence, Socrate convoque le personnage d'Er l'Arménien. Et c'est donc le fameux mythe d'Er l'Arménien. Er est un soldat qui est mort au combat, enfin mort croit-on, et qui en fait est allé dans le monde des morts et en est revenu. Et il est chargé par les dieux, de l'autre côté, de ramener chez les vivants, enfin dans le monde que nous appelons, nous, celui des vivants, il est chargé de nous ramener, d'être le témoin de ce qu'il a vu, c'est-à-dire le jugement des âmes et leur réincarnation. Et donc, lui n'est pas passé par le fleuve du Léthé, le fleuve de l'oubli, comme les autres âmes, puisqu'il devait garder la mémoire de ce qu'il avait vu et raconter, effectivement, ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, c'est le voyage d'Er dans l'au-delà, au moment où il assiste donc au jugement des âmes, au choix que doivent faire les âmes d'une nouvelle vie qui dure. Et donc, bien sûr, entre les deux, il y a des milliers d'années qui se passent et les âmes reviennent en ayant choisi une nouvelle vie.
Est-ce qu'il y a une évocation dans les textes, notamment ceux de Vinci, du mythe d'Er?
Personnellement, je n'ai rien vu. Mais en même temps, c'est quelque chose de connu. Je veux dire, à la Renaissance, bon, il y a quand même la traduction de Platon, il y a l'imprimerie qui est développée, Platon circule, et bien sûr que La République, le mythe d'Er sont commentés par Marcel Ficin, par tous les philosophes de leur époque. Léonard, Dürer, Michel-Ange se réfèrent à Platon. Hein, donc ça fait partie de leur milieu, ces lectures ou ces discours platoniciens. Ils baignent là. Et donc l'immortalité de l'âme, en plus, les concerne énormément dans leurs écrits. Hein, là, ils en parlent tous. Les poèmes de Michel-Ange sont magnifiques à cet égard. Hein. C'est vraiment voir son corps comme un sac, comme une housse. Oui, un sac, il le dit. C'est une référence à Platon qu'on peut trouver chez Dürer aussi. il parle des idées dont parle Platon, pensons-y, etc. Donc c'est vraiment très présent chez les trois.
Odeftedar de Syrie, lieutenant du sacré sultan de Babylone. La nouvelle catastrophe survenue dans les régions septentrionales de la province sera, j'en suis sûre, terrifiante pour l'univers comme pour toi. Je te l'exposerai avec méthode, en montrant d'abord les faits, puis la cause. Je me trouvais dans cette région d'Arménie pour exécuter avec zèle et amour la tâche que tu m'as confiée. Pour commencer à l'endroit le mieux approprié, je pénétrai la ville de Kalindra, qui est proche de la frontière. Cette ville est située dans les régions basses du mont Taurus, là où il est séparé de l'Euphrate. Elle regarde à l'ouest les pics de la grande montagne. Ces pics sont si hauts qu'ils semblent toucher le ciel. Il n'y a aucun endroit de la terre plus élevé que sa cime. Elle est toujours frappée au levant par les rayons du soleil 4 heures avant le jour. La pierre est si blanche qu'elle a un vif éclat et joue pour les Arméniens du pays le même rôle qu'un bout clair de lune au milieu de l'obscurité. Sa haute altitude dépasse 4000 en ligne verticale les plus hautes couches de nuages. Bien des régions de l'Occident voient ce sommet illuminé par le soleil après son coucher jusqu'au tiers de la nuit. Et c'est lui que chez vous, partant serein, nous avons pris pour une comète. Dans l'obscurité, il nous semble changer de forme, tantôt divisé en 2 ou 3 parties, tantôt long, tantôt court. Cela vient des nuages à l'horizon qui s'interposent entre une partie du mont et le soleil. Et comme ils interceptent les rayons solaires, la lumière de la montagne est fragmentée par diverses étendues de nuages. Et son éclat revêt des formes changeantes. Traité de la peinture, Léonard de Vinci. Alors vous avez évoqué les autoportraits à la fois de Michel-Ange et de Dürer. Pour Vinci, c'est autre chose. Il se dit, et vous l'avez cité, ambassadeur d'Arménie. Il se voudrait ambassadeur d'Arménie.
Alors c'est ambassadeur plutôt en Arménie, mais ambassadeur de quoi, on ne sait pas trop. Sans doute envoyé par le Deftetar de Syrie, puisque c'est à lui qu'il écrit. Mais est-ce que ce sont des lettres dans lesquelles il se dit en Arménie? Alors bon, il y a tout un débat. Est-ce qu'il est allé vraiment en Arménie? Est-ce qu'il n'y est pas allé? Alors on trouve l'un et l'autre. Personnellement, c'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est la réalité du document. Donc on a vraiment les lettres de Léonard où il dit vraiment « je suis allé en Arménie, je suis en Arménie au moment où je l'écris ». Et donc c'est plutôt la production de ce texte qui m'a intéressé, où il y a à la fois l'écriture et le dessin. Donc il y a tout ce déluge dans lequel il est, et bien sûr on retrouve là ces idées obsessionnelles, on va dire, du déluge. Je suis ici, je vois la souffrance des gens et je me réfugie dans les églises, ce qui reste des églises. Ça, je trouvais que c'était assez intéressant aussi d'avoir choisi cet élément-là architectural. Donc c'était bien quand même pour montrer le lien au christianisme, ce qui n'empêche pas, bien sûr, plus derrière cela, la question platonicienne. Donc là, vraiment, je crois que s'ils ont choisi tous les trois l'Arménie, c'est parce que c'est le seul endroit géographique, topographique, topologique qui leur permet de faire la jonction entre le christianisme et le platonisme, à travers Er l'Arménien et Noé. Donc dans les deux cas, on a une renaissance, une résurrection.
Ce qui est une obsession pour les trois?
Je crois que c'est d'abord une obsession des philosophes en général, particulièrement de ceux de la Renaissance, et pour les trois, assurément. Assurément.
Dans l'iconographie, ça apparaît simplement dans ce dessin du déluge. Il n'y a pas d'autoportrait de Vinci sur justement les terres d'Arménie.
Non, il n'y a pas d'autoportrait. Je considère la lettre comme un autoportrait, si vous voulez, puisqu'il y a le dessin. Mais évidemment, il n'apparaît pas dessus, si ce n'est par l'écriture. Donc on peut considérer la narration à ce moment-là, puisqu'il s'agit d'autobiographie mêlée à un dessin de paysage. Il est dans ce paysage et en même temps, il est tellement immergé dedans, puisqu'il dit « je souffre comme eux, je les vois souffrir, nous sommes perdus, il y a tellement de choses ». Comment peut-il se dessiner à ce moment-là, si ce n'est... Il ne peut que parler, il ne peut que se décrire et peut-être pas se montrer, se dessiner lui-même. Alors c'est peut-être une façon aussi d'être immergé dans la catastrophe à laquelle il assiste.
Alors, en parlant de cette catastrophe, est-ce qu'il y a une dimension politique aussi dans ce texte de Vinci, et d'ailleurs de manière plus générale, dans cette inscription d'Arménie, parce qu'on est quand même à un moment de l'histoire très particulier, où la menace ottomane peut être sentie aussi aux portes de l'Europe?
Oui, absolument. D'ailleurs, pour le tableau de Dürer, il y a eu cette interprétation qui a été donnée, hein, pour le martyr d'autres martyrs des 10 000. C'est sûrement plus fort au niveau politique dans la question du martyr des 10 000. Alors là, effectivement, où c'est tout à fait la crainte de l'invasion ottomane et une réponse. Mais en même temps, pour ce qui concerne Dürer, je ne crois pas qu'on puisse s'arrêter là. C'est un peu comme ce que dit Yves Bonnefoy à propos de Piero della Francesca. Certains peuvent voir le tableau comme cela, mais c'est un peu réducteur en même temps, parce que il s'agit d'autre chose. Il s'agit quand même de l'âme, qui est quand même une question pour ces hommes-là, enfin je veux dire pour Vinci, Michel-Ange, Dürer, qui est une question plus importante qu'un moment politique, ce qui n'empêche pas que ça puisse être vu aussi comme cela. Mais je ne pense pas que ce soit la finalité de Dürer, sans quoi il n'aurait pas eu besoin de faire un autoportrait non plus.
Et dans cette lettre de Vinci, est-ce que la connotation politique est là aussi, puisque vous parlez de la compassion qu'il a pour ces gens qui souffrent et de la catastrophe qu'ils vivent ?
C'est pas sûr que ce soit un niveau politique, parce que là, il est en relation plutôt avec la Syrie. La lettre est un dignitaire syrien. Donc je ne sais pas s'il y a cette crainte-là de la part de Vinci. Elle n'apparaît pas dans les lettres que j'ai citées, en tout cas, qui concernent sa présence en Arménie.
Il a voulu se mettre un moment au service de Bajazet, citez-vous aussi, hein, dans votre
oui,
livre.
C'est ce que disent tous les historiens de l'art spécialistes de Vinci, ce qui n'est pas mon cas. Je me suis juste contentée d'essayer d'analyser la relation Platon et le christianisme chez Vinci. Donc il y a sans doute aussi une question politique, mais Vinci termine chez François Ier, donc il est appelé partout, et sans doute qu'il est prêt à œuvrer pour si quelque chose l'intéresse dans diverses régions, et peut-être aussi pour faire lui-même le lien entre l'Orient et l'Occident, peut-être, pour ne pas faire des divisions, parce qu'au fond ce sont, dans le cas de Vinci, je crois que c'est aussi quelqu'un qui aime l'unité, qui recherche l'alliance, l'unification, et pas la haine, et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre aussi.
Le jour de la cérémonie des reliques, donné à Nuremberg le jour de la Saint-Augustin 1507, le second dimanche de Carême en l'an 1508, fait à Nuremberg le jour de la Saint-Barthélemy en l'an 1508. Donné à Nuremberg le samedi après la Toussaint. Revenons à Dürer, si vous voulez bien, et à cet autoportrait qui est magnifique, comme souvent les autoportraits de Dürer, que vous rapprochez de la mélancolie aussi. Hein.
Je leur rapproche de la mélancolie parce que, bien sûr, on sait bien, hein, le rapport de Dürer à la mélancolie, la célèbre gravure Mélancolia 1. Et là, dans cet autoportrait, il se peint en noir, collé à son ami Willibald, Père Keimer. Ce qui est important, c'est justement que ce soit un ami et qu'il y ait cet alter ego qui soit là avec lui, et qui est évidemment une façon d'interroger l'autoportrait aussi, parce que c'est à partir de cette altérité en soi qu'est posé l'autoportrait. Et là, bon, ça rejoint, la mélancolie est bien sûr liée aussi à la mort. Et je crois qu'on a là un tableau qui s'interroge sur le moment du basculement. En fait, ce que j'ai essayé de montrer avec cela, c'est en faisant appel à la mélancolie, c'est que Dürer a fait une série d'autoportraits. Donc il y a des autoportraits où il se représente de manière très christique, hein, par exemple, vraiment comme une Véronique pratiquement. Il y a la mélancolie, il y a un autoportrait où il montre, c'est un dessin qui est envoyé à un médecin pour montrer où il a mal. Alors il pointe avec son doigt l'endroit de sa douleur. Et je crois qu'il y a chez Dürer, alors, des autoportraits physiques, j'ai mal, voilà où j'ai mal, des autoportraits d'humeur, et il me semble qu'on peut voir la mélancolie de Dürer comme un autoportrait de son humeur et de son tempérament. Et avec le martyr des 10 000, ma suggestion, mon hypothèse, c'est qu'il s'agit là d'un autoportrait de l'âme. Et donc, on aurait les trois plans, si vous voulez. Parce que, qu'est-ce qui va se passer, hein ? Il la cite, par exemple, à la mort de sa mère. Il dit, voilà, elle a eu une vision avant de mourir. Il en est sûr. Il l'a vu, d'après son comportement.
Et une vision terrifiante.
Une vision terrifiante et il est très attentif. Et en même temps, c'est très subtil la différence entre le rêve, la vision. Il a eu aussi, lui, des visions. Il a représenté ce qu'il a vu, les croix qui sont tombées sur le tablier de la bonne, etc. Donc, et les prodiges, les miracles, il est très proche de tout cela. Les reliques, c'est capital pour lui. Ce que va devenir son âme, ça l'intéresse. Hein. Et il a intérêt quand même à se garantir aussi. Donc, mais oui, donc il y a dans le tableau des 10 000 quelque chose de prophylactique en même temps, de protecteur, puisque les 10 000, c'est ceux qu'on invoque au moment du trépas. Et donc, mon hypothèse, c'est que là, Dürer a fait un autoportrait visionnaire d'un moment de vision, puisque le passé est là dans la signature, hein, Dürer Facebat. Il est déjà trop tard. Une fois que la peinture est finie, on est déjà dans le passé. Je ne suis plus dans la présence. Et en même temps, j'ai fait des choses qui vont être jugées. Et ce qui est intéressant aussi dans cet autoportrait, c'est qu'il tient cette pancarte par devant. Hein, Dürer Facebat, j'ai fait ça. Bon, en même temps, j'ai fait ce que vous voyez là sur ce tableau, c'était moi à ce moment-là. Mais un moi quoi ? Mon image, ma forme, à quoi je ressemblais. Mais moi, mon vrai moi, il n'est plus là, il est ailleurs. Et le vrai moi, c'est l'âme, c'est pas cette chose, cette forme qui a enveloppé l'âme. Et donc, il y a toute cette question de la temporalité de la forme opposée à une présence de l'âme qui doit être dans le tableau, puisque le tableau a une force, devrait avoir une force reliquaire, et en même temps, qu'on ne peut pas assigner à cette représentation d'une forme qui a été momentanée. Donc il faut que le tableau dégage quelque chose qui soit plus que la simple matérialité du tableau. Et en même temps, j'ai fait ça, donc vous voyez ce que j'ai fait, il faut me juger aussi sur les actes, hein. Je vais être jugé sur les actes, il tient cette pancarte par devant, et là on retrouve le mythe d'Er, puisque R raconte au moment du jugement des âmes que celles qui ont fait des choses bien, etc., ont une pancarte par devant et sont jugées avec ce qu'elles ont fait porter devant elles. Et les autres âmes, celles qui sont refusées, ont une pancarte par derrière. Hein? Donc, Dürer a quelque chose qu'il porte devant. J'ai fait ça. Donc, je crois vraiment qu'il s'agit d'un autoportrait sur le questionnement du devenir de l'âme, avec une recherche de la part du Dürer d'être protégé en invoquant le martyr des 10 000.
Il y avait ce désir chez lui d'être protégé. Vous avez évoqué la force reliquaire du tableau. Oui. C'est une belle expression, ça.
Oui, on voit dans les lettres à sa mère, vend ceci, le jour des reliques. Et bon, il est vraiment, c'est très présent. Toutes ses lettres sont datées avec le nom des saints, 3 jours avant la Saint-Jean, 2 jours après la Saint-Machin. Enfin, vous voyez, c'est tout comme ça. Et donc, il est très, très, très attentif à cela. Et il est obsédé aussi par la maladie. Attention, il ne faut pas que j'attrape la syphilis. Tout le monde a la peste, je ne sais quoi. Enfin, c'est très, très, très obsédé par la peur de la maladie. Donc, je crois vraiment qu'il y a une recherche de protection dans ce tableau.
Tableau qu'il a occupé pendant de très nombreuses années.
Oui, et sujet sur lequel il est revenu 3 fois. Hein, une fois en
ce n'est pas anodin, quand même.
Non, c'est pas anodin. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir le peu de choses que dit Panofsky à cet égard. Pratiquement rien. Une demi-page, vite bâclée, emballée, qui nous dit, voilà, il a sans doute voulu représenter son beau manteau à la française. Enfin, donc, vous voyez, quelque chose de tellement futile, comme si c'est...
Ils ne sont pas tellement Dürer, en plus.
Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est très, très décevant. C'est ce qui fait que... Mais en même temps, c'est bien, puisque ça m'a obligée à chercher beaucoup de choses. On a aussi cette tendance à dénigrer la portée intellectuelle de Dürer. Comme c'est général d'ailleurs pour beaucoup de peintres, on aime bien voir les peintres pas très bons théoriciens, un peu mauvais intellectuels, pas trop philosophes. Oui, ça demande pas beaucoup de niveau philosophique, etc. Enfin, il y a toutes sortes de remarques de différents commentateurs pour différentes œuvres de Dürer. Et puis alors, prenons un contemporain de Dürer, un philosophe, Erasme. Mais il y a un éloge de Dürer en disant, voilà, Dürer, c'est vraiment une grande tête. Et voilà, il est à la fois un grand artiste et à la fois un grand penseur. Et Dürer arrive, dit Erasme, Dürer arrive à peindre les choses qu'on ne voit pas. il arrive à peindre même la voix. Et ça, je trouve ça magnifique. Parce que la voix, c'est la présence. Ça veut dire, c'est pas les mots, il n'arrive pas à peindre les mots, il arrive à peindre l'action du discours, le discours en acte.
Il parle de quel tableau à ce moment-là ?
Il parle généralement, il ne se réfère pas à un tableau en particulier. Il dit, voilà, Dürer arrive à peindre les signes météorologiques, il arrive à peindre ce qu'on ne peut pas voir, et même la voix. Et ça, vraiment, ça veut dire, c'est l'énergie du discours. C'est ça que recherche Socrate, hein, l'énergie du discours. Le vivant dans le discours. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une prédominance chez Platon du discours oral sur l'écrit, comme on le dit toujours, ou souvent, mais il y a bien une prédominance du vivant sur le simulacre qui est de la mort, qui est de la répétition. Et donc le discours du sophiste, il est aussi nul que l'écriture, parce qu'il est dans le simulacre, il est dans la représentation. Il n'est pas dans l'énergie vivante du discours.
Est-ce qu'il y a chez Dürer, pour qui vous évoquiez cette obsession de se représenter en Christ, ou en tout cas cette apparence christique qu'il a souvent dans ses autoportraits, est-ce qu'il y a aussi une obsession, ou en tout cas une préoccupation de retrouver un christianisme authentique ?
Il me semble en tout cas, vous avez raison de le souligner, qu'il recherche cela. Ce qu'on va trouver aussi chez Michel-Ange du reste, hein, dans la fameuse inauguration de la Sixtine, quand le pape lui reproche de ne pas avoir mis d'or assez d'or dans tout cela, et qu'il lui répond, mais Saint-Père, les gens qui sont là-haut, ça ne les intéressait pas, alors hein, ils étaient... c'est autre chose qu'ils recherchaient. Bon. Je crois que chez ces trois artistes, et surtout Dürer et Michel-Ange, il y a une recherche de l'authenticité de l'esprit du christianisme. Et Michelet ne s'est pas trompé quand il dit pour Michel-Ange, le chapitre sur Michel-Ange s'appelle de Michel-Ange prophète, hein, et il montre bien comme quoi chez Michel-Ange c'est vraiment une dimension mystique. On n'est pas là dans l'obéissance à la hiérarchie, à quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une autre portée. Et chez Dürer, je crois aussi qu'il y a vraiment cette recherche de l'esprit du christianisme.
Que Luther va lui apporter d'une certaine manière ?
Peut-être. Il y a quelques possibilités, mais c'est pas sûr non plus. C'est vraiment une préoccupation qui prend leur vie entière, puisqu'au fond, c'est par rapport à eux-mêmes que la chose se pose, par rapport à leur âme, et donc de nouveau à cette injonction socratique du « connais-toi toi-même ».
Donné à Nuremberg le jour de la Saint-Augustin 1507, le second dimanche de Carême en l'an 1508. Fait à Nuremberg le jour de la Saint-Barthélemy en l'an 1508. Donné à Nuremberg le samedi après la Toussaint.
Le troisième sur qui on ne s'est pas encore beaucoup attardé, quoi que vous l'évoquiez, c'est Michel-Ange. Michel-Ange qui lui donc va se peindre en autoportrait sur l'écorché que tient Saint-Barthélemy. Donc tout ça est une sorte d'enchâssement comme ça. Hein. Ça ne représente pas sur le saint, mais sur la peau que tient le saint, sur ce sac que vous évoquiez. Ça a vraiment l'air d'un sac, hein, cette peau qu'il tient en main.
Oui. C'est vraiment, oui, ça a l'air d'un sac. Il est comme une anamorphose, hein, vraiment. Déformé, défiguré, mais c'est comme ça aussi qu'il se représente dans ses sonnets, dans ses poèmes, où je vis ici claquemuré, je suis comme dans un sac de cuir. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve. Ce sont des poèmes très amers, très 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 durs.
Il y a une beauté chez Dürer quand il se représente.
Oui, oui. Et chez Michel-Ange, non, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus cruel vis-à-vis de lui-même. Hein. C'est...
On est presque proche de Goya, là.
Oui, mais là, je crois aussi que c'est une manière comme d'être déjà dans l'au-delà par l'écriture ou par la peinture. Et bon, au fond, ce que nous sommes ici, c'est un sac, quoi, une peau. Et ce que remplit cette peau, c'est-à-dire l'âme, hein, puisqu'on est des sacs animés, finalement. Hein, donc, un sac avec une âme. Et bon, ben, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le sac.
Alors vous faites un lien non seulement entre cet autoportrait donc dans la chapelle Sixtine du jugement dernier, mais aussi entre la statue de Bacchus. Hein, là on faudrait peut-être aussi s'attarder sur une nouvelle articulation que vous faites, articulation qui nous ramène d'une autre manière, plus prosaïque peut-être, aussi à l'Arménie.
Alors c'est un détour que j'étais obligée de faire puisque le fameux autoportrait sur la peau de Saint-Barthélemy a été comparé, notamment par Edgar Wind, à justement cette statue de Bacchus qui tient avec un faune et qui tient la peau d'un animal. Bon, et Edgar Wind dit, voilà, c'est pas la première fois que Michel-Ange se montre une peau écorchée. On a déjà l'écorchement, le martyr de l'écorchement qui apparaît dans la statue du Bacchus, qui nous renvoie bien sûr au mythe de Marsyas écorché. Marsyas auquel est comparé Socrate dans le banquet de Platon. Donc là, vous voyez toute une liaison assez... Enfin, ça devient un vrai réseau. Donc, Marsyas est comparé à Socrate, ou plutôt Socrate est comparé à Marsyas. Donc, il y a un écorchement de Socrate pour voir l'intérieur de Socrate. Hein, c'est le fameux discours d'Alcibiade dans le banquet de Platon. Ce qu'on voit à l'intérieur de Socrate, à ce moment-là, c'est quelque chose de merveilleux, comme dans les Silènes qu'on ouvre, une lumière intérieure qui est extraordinaire. Et Alcibiade, ivre mort, dit à ses amis, je ne sais pas si vous a été donné de voir cela, mais moi je l'ai vu et c'est quelque chose de merveilleux, d'inoubliable, etc. Bien. Alors, Wind en profite pour dire, voilà, en fait, ce qui intéresse Michel-Ange, c'est le paganisme et pas le christianisme. Et donc, c'est une façon de masquer sa recherche du paganisme par quelque chose de chrétien. Et donc, ce Saint-Barthélemy serait une façade chrétienne pour reparler du mythe de l'écorchement de Marsyas, donc de Dionysos. Et moi, il m'est apparu plutôt le contraire. Je ne pense pas du tout qu'il s'agit d'une façade. Il n'a pas besoin de cela, justement parce que, à travers l'indice Arménie, on peut faire la jonction entre le christianisme et le platonisme. Et il n'a pas besoin de se cacher, parce que justement Saint-Barthélemy est écorché en Arménie, et Dionysos, quant à lui, puisque évidemment l'écorchement de Marsyas nous renvoie à l'univers de Dionysos, Dionysos, quant à lui, à l'époque de Dürer, est comparé au Christ. Chez Erasme, on va trouver le Silène, mais le Christ est aussi un Silène, et il y a encore d'autres Silènes, etc. Donc bon, parce que il s'agit d'une ouverture du corps pour voir une lumière intérieure. Bon, donc le Christ est un Silène pour l'époque de Dürer. Il n'y a pas de Michel-Ange et de Dürer, ben c'est la même chose. Il n'y a pas de contradiction. Alors, beaucoup d'éléments de Dionysos se retrouvent pour Jésus. Hein, il renaît, il est... Enfin, j'ai essayé de faire une petite liste des éléments. Ils sont tous les deux donc liés à la végétation, il y a la vigne. Alors, bien sûr, donc le christianisme et Dionysos, il y a énormément de symboles qu'on va retrouver de l'un à l'autre. Il y a des liens qui vont de l'un à l'autre. Alors, concernant le vin, on voit chez Hérodote, dans les enquêtes d'Hérodote, que, épisode que va reprendre Michelet, par exemple, dans la Bible de l'humanité, que l'origine du vin est en Arménie, que les ânes descendent avec la production de vin qu'ils vont vendre en Assyrie. Toute l'histoire du culte de l'âne, qui fait aussi partie des rituels dionysiaques, est liée à cette production de vin qui va se vendre, qui provient d'Arménie. Or, ce qui m'a intéressé aussi ce qui m'a permis, à travers l'indice arménien, de faire cette jonction entre Barthélemy et la statue de Dionysos pour montrer qu'au contraire de Wynne, ce n'est pas du tout un masque chrétien pour retourner au paganisme, mais qu'au contraire, il s'agit de la liaison des deux, c'est que Wind, avec d'autres d'ailleurs, se disent oui, mais au fond, bon, donc il y a une peau qui est tenue, une peau de bête. Est-ce que c'est un lynx, une panthère, un lion, un tigre? Enfin bon, bref. Alors ils sont en train de se disputer pour savoir de quel animal il s'agit. Or, si on prend chez Condivi, Wind dit oui, Condivi se trompe. Il ne s'agit pas d'un tigre. Il a confondu le tigre et le pardalus, je ne sais plus quelle bête il appelle, une bête hybride, et il va se plonger dans Pline, enfin, ce qui n'a vraiment pas beaucoup de sens, je trouve, dans cette question. Alors, si on regarde, Marcel Détienne a raison, à l'époque, pour les Grecs, il n'y a pas de différence. Il y a un ensemble panthère qui est important. Et si on regarde l'iconographie alors de concernant Dionysos, on voit que son char est souvent traîné par des tigres, mais qu'il y a aussi des panthères. Et dans ce que dit Condivi, le disciple de Michel-Ange, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'animal dont il parle, mais il dit « c'est l'animal qui est attiré par le vin ». Bon, or, dans la tradition, l'animal attiré par le vin, c'est la panthère d'Arménie. Voilà. Donc,
ne vient pas n'importe où, cette panthère.
Ne vient pas n'importe où. Et donc, c'est ce que Marcel Détienne appelle la panthère parfumée. Enfin, il se réfère à des auteurs de l'Antiquité pour montrer qu'on capturait les panthères en les attirant par le parfum, parce qu'elles-mêmes étaient considérées dans l'Antiquité, mais aussi par la suite, comme un animal parfumé, qu'on ne pouvait attraper donc que par son propre piège, c'est-à-dire en l'attirant par des parfums. Et son parfum préféré, c'est le vin. Et donc, il suffisait de répandre un peu de vin dans des sources où elle pouvait s'abreuver, qu'elle arrivait tout droit d'Arménie, et on pouvait les capturer. Et ainsi, il y a une légende, un fait qui est rapporté par des auteurs de l'Antiquité, où il y a la capture d'une très belle panthère qui a un collier avec des lettres, des inscriptions arméniennes disant qu'elle appartient au roi d'Arménie, etc., et qu'elle est destinée à Dionysos. Là, on va retrouver cette panthère ensuite, cette panthère parfumée odorante, au Moyen-Âge, et elle sera l'image du Christ. Alors, dans tous les poèmes que j'ai cités du Moyen-Âge, on voit combien le Christ est comparé à une panthère dont le parfum guérit. Il guérit tout, absolument tout, sauf le dragon qui est son ennemi, donc l'antéchrist. Donc, vous voyez, il y a ce lien vraiment qui s'établit de la panthère au Christ pendant tout le Moyen-Âge. Ce qui fait qu'il n'y a aucune raison de soupçonner Michel-Ange de vouloir rester païen en utilisant des masques chrétiens. Ça, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est au contraire, la liaison entre Saint-Barthélemy et les rituels dionysiaques peut tout à fait se faire, justement, si on tient compte de l'indice arménien.
C'était Jacques Matossian, docteur en philosophie, qui nous parlait de son dernier livre, Des admirables secrets de l'Ararat, publié aux éditions La Part de l'œil. Et vous pouvez bien sûr podcaster l'émission dès demain grâce à notre site internet.